Qu'il s'agisse de gestion de classe, de relations avec les élèves, avec les collègues ou avec les parents, j'ai à plusieurs reprises entendu des profs me dire dans des accompagnements « je n'ai pas de répartie » ou « je ne sais pas quoi répondre ». Et souvent, il y a des peurs associées. Peur qu'on ne m'aime pas, peur d'être méchante, peur de ne pas être comprise, peur de ne pas dire ce qu'il faut, peur que ça ne marche pas et qu'on ne m'écoute pas. Alors j'ai eu envie d'en parler dans un épisode de podcast. Et pour vous parler de répartie, j'ai invité Emmanuel Piquet, car je me suis dit que l'approche de Palo Alto et les flèches de répartie pouvaient nous éclairer. Je suis Émilie Lefatan, ex-prof des écoles devenue coach professionnelle et formatrice. J'accompagne entre autres les profs et les professionnels de la pédagogie à se développer professionnellement, à vivre des changements, à retrouver de la sérénité et du kiff au quotidien. Et dans ce podcast, on réfléchit, on se questionne, on partage pour nourrir sa pratique et sa vie professionnelle. Alors si tu as envie de prendre un temps de recul sur ta vie de prof ou ta façon de travailler, mets tes écouteurs, installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour Emmanuel, merci d'avoir accepté cette invitation dans le podcast. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas, tu es thérapeute systémicienne, tu es maître de conférences à l'Université de Liège et tu es formée et formatrice aussi de thérapie brève systémique, stratégique systémique, hein, tu vas me corriger, dans le courant de l'école de Palo Alto. Et l'un de tes sujets de prédilection, en tout cas celui qui m'a fait t'inviter ici, c'est l'apaisement des souffrances en milieu scolaire. Et pour cela, tu as créé les centres à 180 degrés chagrin scolaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus en quelques mots, notamment sur ce que c'est que cette approche de Palo Alto ?
Tout à fait. Donc, alors l'école de Palo Alto, c'est une école de pensée, en fait, hein, qui est née dans les années 50 aux États-Unis, avec des gens très différents en fait en termes de discipline, hein, donc à la fois des anthropologues, des psychologues, des psychiatres, voilà, qui au fond ont réfléchi à ce qui faisait que certaines relations étaient fonctionnelles, on va dire apaisantes, épanouissantes, voilà, et ce qui faisait que à contrario d'autres relations étaient tout à fait génératrices de souffrance en fait. Parfois d'un côté, parfois des deux côtés. Et au fond, tout leur travail à ces penseurs a été de réfléchir à ce qui faisait qu'on pouvait transformer une relation dysfonctionnelle en une relation fonctionnelle. Donc Paul Watzlawick, qui est un des grands penseurs et notamment diffuseur de cette école, disait au fond, nous ne soignons pas les gens, nous soignons les relations. Donc c'est ça, en gros, la alors c'est vraiment très, très... c'est évidemment très résumé, mais l'autre chose qui est intéressante et qui d'ailleurs... y est corrélé, c'est que c'est de la thérapie systémique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser plus au système. Donc au système, par exemple, prof-classe, au système prof-prof, au système prof-inspecteur, au système prof-ministre de l'éducation nationale. Toutes sortes de systèmes qui génèrent plus ou moins des choses positives, en fait. Et donc l'idée c'est de la systémie, c'est comment, au fond, on va aider les gens qui souffrent dans un système relationnel, hein, j'entends, pas dans un Bien système sûr. Organisationnel, donc dans un système relationnel, à modifier les règles du jeu de ce système. Parce que quand, et ça c'est aussi une des prémices de l'école de Palo Alto, quand on est dans un système, quel qu'il soit, relationnel, on a un impact sur ce système.
Et c'est hyper intéressant d'entrer du point de vue de la relation et de se dire qu'on a un impact dans ce système et qu'on a encore la main et le pouvoir d'agir sur cette relation. Et en fait, on t'entend souvent prendre la parole au sujet du harcèlement, puisque bon, bah, c'est un des dysfonctionnements de certaines de ces relations dans le système scolaire. Et à certains égards, je trouve qu'il y a aussi des ressemblances dans ce que je t'entends dire en général sur la façon dont on peut traiter les situations de harcèlement, des ressemblances avec ce dont pourraient avoir besoin les enseignants pour traiter aussi certaines relations. Et dans ce que tu viens de dire, on comprend que ben voilà, c'est cette relation, c'est ces relations sur lesquelles on peut agir. Qu'est-ce que la systémie de Palo Alto peut apporter concrètement aux profs dans le traitement de ces différentes relations?
Alors, En effet, je pense que ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'enseignant, il est à la croisée de plusieurs relations qui sont à fort enjeu, en fait, globalement émotionnel, je dirais, et même presque sociétal. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de, voilà, de très concentré là-dedans, de très condensé. Donc, il y a la relation, comme on le disait, avec la classe. Et là, vraiment, je parle de la classe, c'est-à-dire cette espèce de masse protéiforme qui peut parfois être extrêmement problématique en termes de souffrance, hein, dans cette interaction entre l'enseignant et la classe, dans les deux sens. Hein. Voilà, je pense qu'il y a des classes harcelantes, ou comme je pense qu'il y a des profs qui, à certains moments, voilà, peuvent, pour différentes raisons, être un peu trop autoritaires, disons. Ouais, bon, bref, donc il y a cette relation-là. Il y a la relation entre le prof et chacun des éléments de la classe, qui est encore quelque chose de différent. Il y a les relations entre enseignants qui ne sont pas forcément toujours très simples, contrairement à ce qu'on pense. Moi, j'adore, quand je peux intervenir dans des établissements, aller demander si je peux prendre mon café en salle des profs. J'adore parce que... Je veux dire, on a des scènes qui sont extrêmement intéressantes, comme par exemple, mais ça m'est raconté, je ne l'ai pas vu, ce n'est pas passé devant moi, mais ça m'a été raconté plusieurs fois. Par exemple, ces enseignants qui disent, j'en sais rien, j'en avais une dernièrement qui disait, donc moi, les 3e B, en fait, ce que je vais faire, je vais les enfermer dans un sous-sol du collège, je pense, et puis je vais tout bien scotcher de façon hermétique, je pense, parce que je ne vois pas ce que je peux faire d'autre pédagogiquement. Ce que moi, je trouve extrêmement drôle, même si c'est un peu violent, c'est évidemment une métaphore. Et là, elle me dit, et là, il y a une prof, mais c'est toujours un peu la même, quoi, en fait, qui la regarde et qui lui dit « Ah, c'est marrant, avec moi, ça se passe super bien. Mmh. » Ça, c'est de la violence entre enseignants, ouais. Tu vois, par exemple. Donc, il peut y avoir des choses très dures, entre des binômes aussi de PE, il peut y avoir des choses extrêmement compliquées à certains moments, notamment entre débutants et anciens, voilà. La relation avec les parents d'élèves, c'est quand même un cauchemar. Quand ça devient cauchemardesque, ça devient cauchemardesque, globalement. Moi, j'ai pas mal d'enseignants qui sont venus me voir parce que la relation, même si elle est très sporadique avec l'IEN, avait été vraiment catastrophique, presque traumatisante, en fait. Et puis, il y a aussi cette relation avec le monde, globalement. Enfin, je veux dire, j'ai une affection tout à fait particulière pour le corps enseignant qui, vraiment, j'ai aucun mérite pour ça, parce que je suis fille d'enseignant doublement, donc je ne peux que les aimer. Je sais ce que c'est, au fond, que d'être extrêmement mal dans ce métier-là. Je sais ce que c'est le dimanche soir, la boule au ventre d'y retourner. Je sais aussi, évidemment, les choses magnifiques qu'il peut y avoir, mais les enseignants ont plutôt mauvaise presse. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon secteur de la conférence, des conférenciers, vraiment, les conférenciers disent « Non, mais je ne suis pas disponible du tout pour cette réunion pédagogique de rentrée parce que ce n'est pas un public facile. » Parce qu'ils se prennent plein de choses tout à fait problématiques, de mon point de vue. Et donc, moi, il m'arrive, au fond, d'outiller des enseignants, notamment vers le mois de décembre, quand ils partent pour les repas de Noël, pour savoir quoi répondre à l'oncle Acariate, qui est acariâtre, qui dit « T'as déjà combien de semaines depuis depuis la rentrée là, de vacances ?» Enfin, je veux dire, des choses insupportables. Donc, je trouve que vraiment, c'est pour ça que vraiment l'école de Palo Alto peut les aider à ne pas se rigidifier, en fait, en réalité. Parce que un des gros problèmes des enseignants, je le redis, que j'aime d'amour, c'est qu'ils ont une espèce de tendance à se rigidifier assez rapidement. Et je leur dis souvent, quand vous sentez dans vos reins que vous êtes en train de vous rigidifier, que ce soit par rapport à une classe ou à un parent d'élève, dites-vous que vraisemblablement, il va falloir faire un virage à 180 degrés, en effet, parce que vous êtes en train de vous tendre. Et quand vous vous tendez, vous vous transformez en une espèce de statue de verre, qu'il est extrêmement facile avec une pitchenette que je viens de mimer alors que nous sommes dans un podcast qui est ridicule. Donc, une pitchenette, simplement, ils peuvent vous faire exploser, en fait. Donc, l'école de Palo Alto permet, au fond, de redescendre, en fait, de ce genre d'escalade, en fait, pour reprendre un peu d'oxygène et un peu de souplesse. Rien d'autre que ça, hein, c'est pas non plus magique. Mais ça peut permettre de retrouver un peu de souplesse.
Oui, et puis c'est peut-être que ça, mais il n'existe pas. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de lieu dans lequel on peut s'offrir ce petit temps de recul pour faire ce virage à 180 degrés. Et justement, puisque tu en parles maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que c'est que ce virage à 180 degrés ?
Alors, en fait, c'est vraiment ce que les penseurs de l'école de Palo Alto ont mis en exergue de façon absolument incroyable, de mon point de vue, au niveau de l'esthétique intellectuelle. c'est qu'en fait, ils ont dit, en fait, on se rend compte très souvent que c'est précisément ce que les gens mettent en place pour résoudre leurs problèmes qui non seulement ne les résout pas, mais les alimente, voire les aggrave. Et donc ça, c'est quand même majeur comme découverte. Parce que du coup, c'est ce qui faisait dire encore une fois à Paul Watzlawick, le problème, c'est la solution. Ouais. Et au fond, ça veut dire qu'on est beaucoup, dans un certain nombre de cas, à faire un peu plus de la même chose, toujours un peu dans le même sens, même si ça prend des modalités créatives différentes au niveau tactique. Mais
on est finalement, c'est la même stratégie qu'on amplifie, mais qui reste la même stratégie.
Et surtout avec la même intention, en fait, qui est souvent une intention tout à fait vaine, comme par exemple vouloir une classe silencieuse, qui est quand même étonnant. Comme on ne comprend pas ça. Et donc, ça crée des espèces de... Oui, des espèces de redondance tout à fait douloureuse parce qu'à chaque fois, l'objectif n'est pas atteint, hein, avec un peu plus de fatigue, un peu comme si on était un hamster à courir dans une roue. Et je trouve que vraiment, les enseignants sont très symptomatiques de ça, parce qu'en fait, les enseignants sont souvent d'anciens bons élèves. Donc là, j'ai toujours les profs de PS qui me disaient d'accord, mais enfin, globalement, quand même, les enseignants sont quand même d'anciens bons élèves qui pensent que de façon très rationnelle, quand on fait quelque chose bien, on obtient un résultat, quoi. Et c'est pas vrai, en fait, parce qu'il y a des fois où, même si on a l'impression de bien faire, on est en train de faire, je le redis, quelque chose de très vain, qui est notamment d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Et donc, le virage à 180 degrés, ça consiste, au fond, à identifier ce qu'on a donc déjà mis en place, à en sortir la substantifique moelle, c'est-à-dire, comme on disait, le mouvement global dans lequel s'inscrivent toutes ces tentatives vaines. Et une fois qu'on a ce mouvement global, de réfléchir à comment on pourrait faire exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Et donc, ensuite, on concrétise, en effet, avec l'enseignant, comment il pourrait faire exactement l'inverse. Donc, c'est compliqué, mais souvent, en effet, les patients, que ce soit des enseignants ou d'autres, hein, quand ils viennent nous voir, ils nous disent en substance, j'ai tout essayé. Hein, ça, c'est vraiment un mot des enseignants. Moi, j'ai tout essayé avec cette classe. Bah, compliqué, tout. Tout essayé. sauf l'inverse, hein, bien entendu.
Oui.
Mais ce qui est très mignon, c'est qu'ils disent, et là, vraiment, j'ai l'impression d'être dans une impasse. Et donc, moi, je leur dis, on va faire demi-tour, du coup, en fait, parce que moi, dans une impasse, je ne sais pas faire autre chose que ça, en fait. Surtout quand on se cogne la tête contre ce mur de cette impasse, avec de plus en plus de souffrance et d'épuisement. Donc, c'est ça, le virage à 180 degrés, c'est faire exactement l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent et qui, visiblement, n'a pas fonctionné.
Moi, en coaching de prof, souvent, ce qui revient, et ça me fait penser, ça fait un lien avec ce que tu disais, c'est quand on est dans cette impasse, le fait de se sentir dans cette impasse, et notamment au niveau de ce qu'on a à dire et comment on pourrait le dire. Et donc, sur le sujet de la répartie, souvent, j'ai des profs qui viennent me voir et qui me disent, en fait, j'ai pas de répartie et que c'est ça mon problème. C'est parce que je ne sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire quand un élève est en retard. Je sais pas quoi dire quand le collègue me fait cette petite remarque, soi-disant anodine, mais qui ne l'est pas. Je ne sais pas quoi dire quand les parents viennent me dire telle ou telle chose qui génère de la culpabilité chez moi, par exemple. Et ça, ça m'interroge parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette répartie que tout le monde, dont beaucoup pensent manquer, et quels sont les facteurs qui pourraient, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, comment on pourrait outiller les élèves, n'importe quoi. Comment on pourrait outiller les profs pour gagner en répartie ? Et est-ce que c'est le bon terme, finalement ?
Oui, c'est une excellente question parce qu'en réalité, moi, je pense que quand on est dans une situation émotionnellement submergente, on n'a pas de répartie. C'est quand même assez global. Ça n'est pas lié à un trait de personnalité. C'est lié à un état émotionnel, en fait. On est un peu... plus ou moins, mais je veux dire, même si c'est un tout petit peu tétanisé, on n'a évidemment pas tellement accès à notre cerveau parce que... on est là et on comprend même pas ce qui vient de se dire, en fait. Et puis, si en effet on est saisi par de la colère, on a peur de dire quelque chose qui serait trop violent, en fait. On n'a pas forcément envie de sortir tout de suite le bazooka, hein, en tout cas. Du coup, je pense qu'en effet, plus que la répartie, comme tu l'as parfaitement analysé, je pense que c'est plus intéressant de se poser et de se dire, ok, donc avec ce collègue-là, avec cette classe-là, avec ce parent d'élève-là, je suis dans un problème. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une seule fois, parce que sinon l'école de Palo Alto, en tout cas, n'est pas opérante.
Okay.
Il faut vraiment, l'école de Palo Alto, elle vient résoudre des problèmes. Mais pour qu'il y ait problème dans notre acception à nous, hein. Il faut qu'il y ait souffrance, évidemment. Mais ça, des difficultés peuvent aussi générer des souffrances. Le problème, ce qu'il a en plus de la difficulté, c'est que on a essayé pas mal de choses pour tenter de le résoudre. Et c'est précisément ce côté enkysté, voilà, amplifié un peu qui nous fait souffrir. Donc, pouvoir se poser et regarder ce qu'on a tenté de faire, chaque fois que cette personne, voilà, nous mettait en difficulté, nous taquinait, nous attaquait, etc. Et se dire, donc visiblement, ce que je fais, c'est-à-dire rien, dans ce cas-là, c'est-à-dire j'attends que ça passe ou je fais comme si je n'entendais pas ou j'en sais rien. Enfin bref, il faut vraiment identifier ce que fait la personne. Alors à partir de là, on va commencer à réfléchir, non pas à ce qu'il pourra dire la prochaine fois, mais à ce qu'il aurait déjà pu dire là. Donc déjà, c'est une forme d'entraînement, en fait, ça, de se dire, OK, à 180 degrés, ce serait ça. Donc, la répartie, c'est-à-dire dire quelque chose pour faire changer l'inconfort de côté, ça, c'est adapté lorsque ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est se recroqueviller, ne rien dire ou dire gentiment arrête. Là, c'est la répartie un peu cinglante, c'est un 180 degrés. Mais il y a des fois où c'est pas du tout ça qu'il faut faire, en fait, hein, pour que la relation s'apaise, quoi. Mais parfois, ça peut être en effet de la répartie. Alors, je pense qu'une répartie, enfin, comment dire ? Par rapport à ce fameux manque de souplesse dont on parlait et qui est parfaitement logique, hein, c'est pas du tout un reproche, hein, c'est que quand on est en permanence enjoint de façon paradoxale, on devient rigide, en effet, hein, globalement. Donc tout ça est parfaitement logique. Mais ce que je crois, en fait, par rapport justement à cette souplesse retrouvée, c'est que un vrai 180 degrés, c'est arrêter de monter en escalade symétrique avec les classes ou avec les élèves ou avec les parents d'élèves. C'est-à-dire que globalement, ce qu'on constate quand même dans les relations qui font souffrir les enseignants, c'est que ils commencent à essayer de vouloir remettre le calme dans la classe, par exemple, par rapport à un gamin un peu leader, un peu ambianceur, on va dire. Et du coup, le gamin se rebelle un peu plus parce que c'est quand même hyper marrant quand même d'entrer en escalade avec un prof. Là, le prof monte un peu plus, puis l'élève monte un peu plus. Et là, à un moment donné, ça explose, soit parce que, en effet, l'enseignant perd le contrôle en se mettant à hurler en virant le gamin. Mais en fait, il perd, là, l'enseignant, quand il fait ça.
Ouais.
Il perd parce qu'il a perdu le contrôle et que donc il perd en légitimité, en fait, hein, d'une certaine manière. Souvent, l'élève, ça va. Hein, lui. Il part en vie scolaire, ça va. Et en fait, je pense qu'un vrai virage à 180 degrés dans un certain nombre de cas, c'est d'aider les enseignants à rester en bas, en fait. Ça ne veut pas dire manquer d'autorité, ça veut dire laisser
faire. Ouais.
Mais ça veut dire ne plus faire le plaisir à ces élèves ambianceurs de monter sur leur échelle, quoi. Moi, je leur dis, imaginez que ce gamin-là, c'est un peintre en bâtiment, et donc quand il arrive dans votre classe, il a une échelle avec un bleu de travail, et il se dit, tiens, je vais mettre l'échelle, et puis là, je vais le voir monter, et puis moi, je vais le faire monter le plus possible, quoi. Et donc, je travaille avec eux à comment rester en bas de l'échelle. Ça, c'est un vrai virage à 180 degrés, je trouve, dans un certain nombre de cas.
Ouais. Ça me fait penser à une anecdote personnelle, ce que tu me dis. Quand j'étais au collège, on avait entrepris le projet d'enrager notre prof d'allemand en lui lançant des petits claques doigts sur le tableau et de lui faire peur. Et en fait, elle s'est cachée sous le bureau. Et finalement, elle est ressortie en souriant, en nous manifestant le fait que « Oh, bah, qu'est-ce que vous êtes drôle, c'est vraiment très marrant !» Elle a continué son cours. Et du coup, ça nous a séché et on a continué le cours. Et ce n'est pas allé plus loin. Et effectivement, si elle avait hurlé, on aurait obtenu, en tant que collégien, ce qu'on avait voulu mettre en place.
Voilà, parce que juste derrière, évidemment, quand en effet, il y a explosion comme ça, il y a évidemment, c'est abusé, monsieur, moi, j'ai rien fait, je sais pas, et avec toute une cacophonie qui se met en place, évidemment, pour éviter que le cours reprenne. Donc, c'est très dangereux, en fait, de monter en haut de cette échelle. Et en même temps, on a vraiment envie de monter, hein, je veux dire, je sais pas, je comprends l'envie, mais je les aide, au fond, à se mettre moins en danger, par exemple, dans ce genre de situation.
Ouais. Et du coup, pour se mettre moins en danger, est-ce qu'il y a un état d'esprit à adopter, une pensée à avoir à ce moment-là, ou qu'est-ce que tu conseilles ?
L'échelle, le bleu de travail, le peintre en bâtiment. Il faut se dire, donc là, il va essayer de me faire monter, regarde comment je ne monte pas. Donc, alors après, on peut vraiment le décliner à l'envi, c'est extrêmement intéressant, parce que moi, j'ai un peu fait un listing de ce que j'ai eu en en analyse de pratique des enseignants ou en consultation. Et ils sont quand même super créatifs à certains moments, surtout quand ils sentent qu'il y a quand même quelque chose d'assez rigide. Et donc, par exemple, je prends un exemple tout simple que tu connais évidemment, mais le jeu de l'autruche, par exemple, qui est quand même un jeu vraiment assez fin, parce que en fait, il y a à un moment donné quelqu'un qui donne un signal dans la classe et tout le monde met sa tête dans son sac comme s'il cherchait une trousse, ce qui fait que l'enseignant se retrouve devant une classe sans tête, il y a plus personne, ce qui est assez oppressant en fait dans un premier temps. Et donc évidemment là le risque c'est de dire toi tu me donnes ton carnet et tout ça, et là donc évidemment celui à qui on demande le carnet il dit mais madame je cherche un stylo, c'est trop abusé et tout ça, et du coup là on crève avec, enfin, et c'est en effet assez juste que comme tout le monde l'a fait, enfin c'est un peu impossible en fait de sortir de cette situation. Et donc je trouve que ce qui est très intéressant à 180 degrés par exemple, c'est quand ils font ça la fois d'après de rien dire et de dire le premier qui se relève ira à la vie scolaire.
Voilà.
Et là, ils croyaient prendre. Donc, on corrige des copies pendant ce temps. Et puis, quand il y en a un qui se lève, il va à la vie scolaire. Et là, je trouve que c'est ça, en fait, le virage à 180 degrés. C'est vraiment se dire, je vais jouer avec vous. Parce qu'au fond, moi aussi, je peux me marrer. Hein. C'est quand même assez drôle. J'avais un cas d'un enseignant à qui les élèves avaient... C'était à l'époque où il y avait encore des tableaux noirs, avait complètement mis de la crête partout, en fait.
OK.
Vraiment entièrement. Donc, la première fois, il n'avait vraiment pas su quoi faire. Il avait envoyé certains à la vie scolaire, il avait hurlé, il avait dit c'est vraiment, vous êtes insupportable. Donc, ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Et la fois d'après, en fait, ce qu'on avait décidé, c'est que. Donc, il n'écrivait pas du tout au tableau, donc il disait, je vais faire mon cours plutôt à l'oral, je pense que c'est mieux pour vous. Puis j'écrirai quelques petites choses, mais vraiment les choses les plus importantes. Et il écrivait sur la craie, en fait. Il disait, ça, c'est hyper important hein, pour le devoir de la semaine prochaine. Et donc, c'était absolument illisible. Et il avait fait un tout petit carré pour dire, pour noter juste la date du jour, en fait, hein, juste pour les agacer. Donc, c'est ça, en fait, rester en bas de l'échelle. C'est rire d'eux, un peu. Mais aussi avec eux, parce que, comme tu le racontais très bien dans ton anecdote, à partir du moment où on rit avec eux, ils n'ont plus envie de nous faire monter à l'échelle, en fait. Hein. Oui. Mais ça demande une très grande souplesse.
Oui, de la souplesse, de la créativité, de la maîtrise de soi aussi, et juste la capacité sur le moment à ne pas vouloir peut-être réagir vite. C'est peut-être ça aussi le piège de la répartie, c'est de se dire, il faut que je trouve vite un truc et que je dise un truc maintenant. Et donc, du coup, c'est là aussi qu'on se dit, ben, je n'ai pas de répartie parce que je n'ai pas trouvé quoi dire. Alors que parfois, peut-être qu'une des pistes, c'est de ne pas forcément se précipiter et de prendre ce temps stratégique. Hein, ça va bien, du coup, avec le nom du courant, mais ce temps un peu stratégique de réflexion, de dire, OK, j'ai envie de faire ça. Et de la conscience de soi aussi, du coup, de prendre conscience de ce qu'on a envie de faire sur le moment et de dire, OK, j'ai envie de faire ça, mon élan, c'est de faire ça. Hop, je freine un peu et si je faisais autre chose.
Tout à fait. Et du coup, je pense que il faut en effet, en revanche, me semble, hein, pour pouvoir y réfléchir sereinement, pouvoir prendre un temps de recul aussi avec d'autres personnes. Parce que je ne sais pas si tu connais cette anecdote du baron de Munchausen qui était en train de se noyer dans un étang et qui se dit « c'est pas grave, je vais me tirer moi-même par les cheveux pour me sortir de l'étang » et qui donc est décédé par noyade. Je crois que c'est hyper compliqué en fait d'analyser ce qui se passe dans notre salle, dans nos relations en entretien sans avoir quelqu'un qui nous aide à le faire. Et c'est pour ça que moi, je trouve que globalement, bien au-delà de la répartie, je pense qu'il n'y a pas assez d'analyse de pratique dans les établissements. Je trouve que les enseignants sont trop seuls et ce n'est pas possible, en fait, seuls. Tous les cadres, globalement, ont la possibilité, dès qu'ils ont une entreprise un peu grosse en termes d'effectifs, tous ont droit à un coaching quand ils veulent, en fait, quoi, globalement. Moi, je trouve qu'il y a plein d'enseignants ultra seuls. Et je trouve que c'est dramatique parce que c'est pas possible en fait de se tirer soi-même par les cheveux.
Ouais. Et en plus, quand la solitude, elle peut être là même quand on est entouré. C'est-à-dire que la bonne ambiance, la connivence, des fois, ça suffit pas. On peut se sentir soutenu parce qu'on nous tape sur l'épaule, mais si on n'a pas la personne qui vient nous extraire un peu de ce qu'on vit pour pouvoir regarder les choses autrement, avec un autre regard, et parfois, c'est un changement de perception sur les élèves, sur la situation, sur soi-même, sur ses capacités qui permettent de faire aussi ce 180 degrés.
Absolument.
Ouais, tu dis, on parlait de la répartie, et sur cette idée de répartie, donc c'est pas forcément en fait qu'on manque de répartie. J'ai bien aimé ce que tu disais au début du fait que de toute façon c'est normal d'être un peu séché sur le moment quand il arrive quelque chose d'inattendu, même si on sait qu'il y a toujours des choses inattendues qui arrivent dans une classe, de faire ce 180 degrés. Et qu'est-ce qui peut freiner, qu'est-ce qui peut faire obstacle à ça?
Plein de choses. C'est très dur de faire un virage à 180 degrés, en fait. D'abord, pour des raisons de vision du monde. C'est-à-dire que quand on dit « il faut rire avec » plutôt que d'essayer de faire taire leur rire, parce que c'est ça, en fait, le virage à 180 degrés, il y a certains enseignants pour lesquels c'est une démission, en fait. C'est quelque chose de l'ordre de... Oui, de l'abandon, en fait, de la mission, quoi, globalement. Donc, ça peut vraiment freiner. Et des fois, il y a des enseignants qui ont peur, en fait, hein, tout simplement. Donc, je ne sais pas, moi, je travaille souvent en élémentaire, par exemple, quand il y a des enseignants qui me disent « je n'en peux plus, en fait, j'en ai trois, là, je n'en peux plus ». Enfin, je veux dire, ils sont très mignons, hein, mais ils sont insupportables. C'est-à-dire qu'ils sont en permanence en train de courir partout, ils n'arrivent absolument pas à se concentrer, ils sont en permanence dans la lune, enfin, etc. Et j'arrive pas à les mettre au travail, et puis en plus, ils déconcentrent les autres. Là où ils sont très, très mignons, c'est qu'ils disent « et les autres s'en plaignent ». Oui, bien sûr, les autres s'en plaignent, ils voient bien que ça te fait plaisir, sinon ils ne s'en plaindraient pas, hein, globalement, mais bon, bref. Et donc, je leur dis, ben, moi, je regarde ce qu'elles font, et la plupart du temps, elles essayent beaucoup de contenir. La contention est un mouvement global, hein, chez notamment en élémentaire, avec cette volonté, en effet, de contenir à la fois le bruit, à la fois... les mouvements, voilà, à la fois les comportements un peu intempestifs, avec vraiment, globalement, un résultat extrêmement négatif au niveau de la contention, voilà, efficace. Et donc, je leur dis, je trouve que ce serait intéressant qu'on tente quelque chose qui serait vraiment à l'inverse de ça, c'est-à-dire que, par exemple, on définisse un lieu dans la classe où... qui serait la tente de la déconcentration, par exemple, vraiment un lieu où les gens, quand ils sont trop déconcentrés, ils y vont pour se déconcentrer tranquillement, parce que c'est plus agréable, parce qu'on va mettre des choses dedans où on peut soit regarder des étoiles, soit j'en sais rien, enfin faire ce qu'on veut, mais en tout cas être dans la lune.
Non, je disais, j'entends, oui, cette volonté de contenir et aussi de contrôler. Tu parlais des peurs juste avant, et je pense qu'une des peurs, c'est cette peur de perdre le contrôle, cette peur de perdre le contrôle des comportements, du déroulement de la journée et de tout ce qui s'ensuit, parce qu'après, on pourrait venir nous reprocher de ne pas avoir été au bout de ce qu'il fallait faire.
Sachant que la plupart du temps, quand elles viennent, c'est le cas. Hein, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à aller au bout. Elles sont déjà dans cet échec-là. Hein, on est bien d'accord. Hein, donc, ouais. C'est ça qui est étonnant, en fait, comme peur. Et donc là, en l'occurrence, donc moi, je leur dis, donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que dès que vous voyez un des gamins se déconcentrer, vous lui dites, tiens, est-ce que tu veux aller dans l'attente de la déconcentration? Mais il ne faut surtout pas que ce soit punitif. Hein, il faut que ce soit juste... On a tous le droit de se déconcentrer à un moment donné. C'est très bon d'aller dans la lune, hein. C'est très bon pour la santé mentale. Voilà. Et donc, je leur dis, donc, il faut commencer plutôt par les bons élèves qui se déconcentrent peu, pour que ce soit toujours les mêmes. Et la quatrième personne qui doit aller à qui on propose d'aller dans l'attente de la déconcentration, je pense que c'est la maîtresse elle-même qui doit dire, excusez-moi, là, j'ai vraiment besoin de me déconcentrer parce que là, je n'arrive plus à me concentrer. Je suis, donc, je vais dans l'attente et je reviens donc à une... Me faire envoyer une photo d'elle, on voyait ses pieds qui sortaient de là, parce qu'elle avait pris plutôt une petite tente, donc c'était extrêmement drôle. Mais ce qui était mignon, c'est que quand elle sort de la tente, les gamins lui disent « ça fait du bien, hein, maîtresse ?» Donc ils étaient très, très satisfaits. Et avant qu'on mette ça, donc moi je regarde bien entendu les peurs, elle me dit « non mais c'est pas possible » et tout ça. Et en fait, elle, ce dont elle avait peur, et c'est extrêmement souvent le cas, c'est qu'elle disait, si on fait ça, ils vont tous vouloir y aller. Ouais. Et donc là, ça rejoint ce que tu disais, une espèce de perte de contrôle global. Donc c'est-à-dire qu'elles ont extrêmement peur de l'anarchie absolue et tout ça. Et je leur dis, ben, on va faire une liste d'attente. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une liste d'attente en disant, ben, s'il y a beaucoup de monde qui veut y aller, on ira chacun 5 minutes. Mais quand même, il y a, comme tu le dis, cette espèce de perte de contrôle du territoire, en fait, hein, ouais. Globalement. Le problème, c'est que pour moi, c'est un peu comme du sable fin dans leurs mains. C'est-à-dire que plus elles ferment et plus le sable s'échappe. Et que donc, un 180 degrés, ça consiste en effet à laisser libre cours à quelque chose qui, au fond, est relativement peu problématique. La déconcentration, c'est pas grave, en fait. On en a fait quelque chose de très grave et, à mon avis, on l'a aggravé beaucoup. Ouais. Donc, il peut y avoir des peurs, l'impression d'une démission. Mais c'est souvent ça. C'est souvent soit des émotions qui empêchent, soit des visions du métier, en fait, hein, qui empêchent.
Ouais. D'où l'intérêt de pouvoir prendre ce recul et qu'on ne peut pas prendre forcément tout seul et de pouvoir aller regarder ça autrement et prendre conscience de ces obstacles-là. Là, on était pas mal sur la répartie, en tout cas ce dont on pourrait avoir besoin en classe. Et par rapport aux parents, par exemple, ou enfin aux adultes, je pense aux parents et aussi aux collègues, tu as évoqué les petites remarques en salle des maîtres tout à l'heure. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette répartie-là dans ces situations-là?
Mais en fait, globalement, encore une fois, hein, bien entendu, tu l'as compris, chaque cas est infiniment différent. Donc, ce qui est assez puissant avec l'école de Palo Alto, c'est qu'elle va scanner la situation en elle-même avec un certain nombre de questions et ensuite elle va nous permettre de formaliser quelque chose d'opérationnel. Mais on ne donnera jamais la même chose à deux enseignants différents, en fait, hein, puisque tout ça est infiniment particulier. Globalement, je trouve que, en tout cas, moi, ce qui m'est amené en analyse de pratique et en consultation, ce sont également des escalades symétriques avec les parents, avec en gros une espèce de truc où, donc déjà, le parent est convoqué, donc déjà, ça n'est pas très agréable en termes de posture parce qu'on n'est jamais invité, en fait. En tout cas, dans l'esprit, on a l'impression qu'on est convoqué. Donc là, déjà, pour des parents qui, par ailleurs, ont souvent déjà été convoqués, qui sont déjà dans une posture de « je ne vais pas me laisser faire ». Ce qui nous excite, nous, enseignants, évidemment, on se dit « non, mais attends, c'est bon, quoi. Je veux dire, c'est son gamin qui bordélise ma classe et l'autre, il arrive et il fait genre, c'est moi la victime, quoi ». Et donc là, souvent, l'enseignant, il sent ça parce qu'il sent l'implicite. Donc, il commence à dire, voilà, je vous ai convoqué parce que le comportement d'Émilie est très problématique, extrêmement délétère. Donc, voilà, première attaque. Et là, je leur dis, en fait, il y a quelque chose que vous oubliez quand même, c'est que vous êtes en train de parler de la prunelle de leurs yeux à des gens, en fait. Donc, c'est fascinant, en fait, cette capacité à dire du mal des enfants à leurs parents. À quel moment vous pensez qu'ils vont le prendre, en fait? Enfin, je veux dire, alors que le virage à 180 degrés qui consiste de façon assez globale à commencer l'entretien en disant « Écoutez, je suis très contente de vous voir parce que j'ai beaucoup d'affection pour Émilie. Énormément d'affection. » Là, les parents, ils se taisent, ils écoutent, en fait. Parce que personne ne leur dit ça jamais. Parce qu'on a ce vieux truc, je ne sais pas d'où ça vient, hein, je sais pas, de Charlemagne, je pense, je ne sais pas. Non mais en gros, qui dit « on n'est pas là pour les aimer et tout », c'est parfaitement juste. Mais en même temps, moi, je crois beaucoup à l'affection dans les relations pédagogiques, dans les relations même thérapeutiques. Je crois que si on n'a pas d'affection pour les gens, on a du mal, en fait, à les faire progresser, à faire alliance, parce que l'idée, c'est quand même de faire alliance avec les parents, hein, globalement.
C'est important de le rappeler, parce que je pense que ça crée aussi parfois une sorte de dissonance qui empêche de se positionner. C'est-à-dire qu'en plus, quand on est quelqu'un qui est justement dans cet affect, mais qu'on se dit qu'il ne faut pas le montrer, qu'il ne faut pas le manifester, qu'il ne faut pas l'avoir, et qu'il faut absolument se positionner de telle et telle manière pour asseoir son autorité, c'est encore plus difficile à porter et à assumer.
Mais surtout, les gens nous trouvent très bizarres, absolument, parce qu'on n'est pas du tout, on n'est pas du tout congruent, quoi, en fait. Hein. Donc, j'avais une petite enseignante, parce que moi, j'ai fait pas mal de cours à l'INSPE avec des jeunes enseignants donc d'élémentaire, et elle me disait que sa tutrice lui avait dit à un moment donné, donc ce que tu viens de dire là, pour tes moyennes sections de maternelle, là, il faut tout de suite que tu sois bien autoritaire parce que toi, tu as quand même tendance à être un peu un gros chamallow. Donc, et il faut vraiment que tu souris pas, je pense. La première journée, je pense qu'il faut pas que tu souris, parce que toi, tu as un sourire comme ça très...
On entend trop souvent
ça. En effet, la gamine, elle était hyper souriante. T'imagines sa tête pendant toute la journée. Et du coup, les gamins se sont dit, elle est trop bizarre, quoi, la maîtresse. Ouais, oui. Et donc, c'est pas bien passé dès la première heure, quoi, en fait. Ouais. Donc, ça commence comme ça. Et là, alors, donc, si en effet, le parent est un parent habitué des convocations, il va dire, ah bon ? Mais c'est très bizarre parce que l'an dernier, ça se passait très bien. Alors que vous savez très bien qu'ils mentent. parce que ils veulent pas vous donner raison. Parce qu'on remonte sur cette nouvelle échelle. Exactement. Et donc, je dis également aux adultes que je reçois en consultation et qui se plaignent de façon, tout à fait intense, on va dire, des enseignants de leur enfant. Je leur dis, moi, je suis navrée, mais expliquer à quelqu'un comment il doit faire son métier, vous pouvez pas espérer que la personne soit contente. Parce que si moi, je venais dans votre bureau et que je vous disais, voilà, je ne suis pas très satisfaite de la façon dont vous travaillez, je vais vous expliquer un peu comment faire, vous me diriez, mais vous dégagez, en fait, et vous auriez raison. Donc, c'est très bizarre, enfin, je veux dire, de vouloir expliquer son métier à quelqu'un. C'est quand même le seul métier... à qui on fait subir ça, quoi, globalement, avec entraîneur de l'équipe de France de foot. Mais sinon, c'était le seul métier, je crois. Et du coup, je leur dis, en plus, le problème, c'est que quand vous êtes comme ça, en escalade symétrique, c'est-à-dire que vous essayez de prendre le pouvoir dans la relation, parce que c'est ça, en fait, l'idée, c'est prendre le pouvoir de la relation. Vous déclenchez donc chez les enseignants des choses tout à fait intenses également, hein, c'est-à-dire que c'est typiquement, vous êtes typiquement les parents dont ils disent en salle des profs, non mais ils sont complètement dans le déni, de toute façon laisse tomber. Comment veux-tu qu'il aille bien en même temps t'as vu sa mère, voilà. Enfin bon, donc ça vraiment, enfin c'est logique. Et il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que les enseignants sont des êtres humains, donc quand vous les avez beaucoup agressés, que vous avez beaucoup essayé de prendre le pouvoir, ben quand ils voient votre gamin, ils vous voient vous. Et donc, ça ne peut que mal se passer. Mmh. Donc, moi, je travaille beaucoup, vraiment, avec les deux parties, parce que les deux parties qui viennent en consultation, à faire redescendre, au fond, cette escalade.
Ouais. Ouais, c'est vraiment toujours ce principe de pas monter à l'échelle qu'on nous pose devant.
Et c'est très souvent le cas.
Voilà. Et de rester dans une posture et de réussir à prendre le recul, de la maîtrise là, sur le moment pour pouvoir ne pas grimper à l'échelle.
Oui, en tout cas, se voir faire et puis ensuite prendre le recul pour y réfléchir. Alors, attention, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas que des escalades symétriques. Hein. Il peut y avoir des escalades complémentaires. Les escalades complémentaires, c'est tout à coup un enseignant qui perd complètement pied face à un parent ou face à un enfant ou face à une classe et qui se soumet de plus en plus en faisant rien, en essayant d'arrondir les angles, en négociant des choses, en essayant d'être apprécié, en fait, de tout le monde. Ce qui peut créer une souffrance énorme parce que de l'autre côté, les gens se mettent de plus en plus en position d'emprise, en fait, de surplomb. Et j'ai eu des cas comme ça aussi. Mais en tout cas, l'école de Palo Alto donne des outils pour décoder, au fond, ce qui se passe.
Mmh. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi dans l'approche, c'est le fait de parler de relations, ce qui me permet de prendre un peu de recul avec tout le reste autour et de se dire, OK, comment je me positionne, en fait, dans cette relation et de prendre conscience. Tu parlais de se voir faire et de se voir, de regarder un peu quelle place on prend dans la relation et qu'est-ce qu'on veut aussi pour cette relation. Parce que, du coup, ça permet aussi de faire des choix un peu en conscience, quoi.
Absolument, choisissons nos combats. C'est-à-dire qu'on peut très bien être en escalade symétrique avec certains, mais avec tous, ça devient un peu épuisant, quoi. Enfin, je veux dire.
Donc ça, c'était pour les parents. Tu as parlé tout à l'heure de l'anecdote là en salle des maîtres, en salle des profs avec le collègue qui dit ben, « je comprends pas, avec moi ça se passe très bien ». C'était quoi l'issue là
Non mais c'était pour dire que des fois, on n'est pas très sympa avec ses collègues, mais moi j'ai vu des choses beaucoup plus graves. Hein. J'ai vraiment vu notamment des jeunes enseignantes se retrouver, alors pour le coup, dans une escalade complémentaire avec un binôme beaucoup plus ancien dans l'école qui maltraitait la jeune devant les élèves, devant les parents, qui reprenait reprenait chaque fois qu'elle faisait quelque chose. Oui, il faisait des remarques du genre, c'est pas possible qu'elle vous ait dit ça. Enfin, c'est quand même vraiment extrêmement problématique, en fait, en termes de légitimité, surtout pour une jeune enseignante qui, forcément, enfin, moi, j'ai la chance d'en suivre des tout jeunes, je les vois, mais c'est des bébés, quoi. Enfin, c'est des bébés. Donc, c'est quand même d'une violence extrême. Et donc, vraiment, là, pour le coup, ça va être quelque chose qui est plus de l'ordre de la répartie pour rééquilibrer cette escalade complémentaire et reprendre le pouvoir dans la relation en disant quelque chose qui va à la fois faire preuve un peu d'autodérision, parce que moi, je crois beaucoup à l'autodérision. Je crois que l'autodérision, c'est quelque chose de très puissant, en fait, en termes d'outils. Et puis, quelque chose d'un petit peu désagréable pour cette vieille personne qui la mettait en difficulté. Donc, il peut y avoir des choses comme ça, quoi. Et puis aussi, il peut y avoir des problèmes avec le personnel de direction, hein, ça arrive aussi, mais comme dans toute organisation. Hein.
En tout cas, ce que je retiens là, c'est cette idée de se dire que déjà, on n'a pas un problème de répartie intrinsèque et que c'est normal dans certaines situations de ne pas trouver ce qu'on a à dire, que parfois, eh ben, c'est aussi utile de ne pas forcément trouver tout de suite et ne pas forcément dire, de pouvoir réussir à se voir faire pour pouvoir ralentir son élan et réfléchir de manière un peu créative, surprenante à ce qu'on pourrait faire complètement autrement. Et puis la nécessité d'avoir un espace aussi pour prendre du recul et de se dire que j'ai l'impression que ça fonctionne un peu comme un entraînement. C'est aussi le fait de s'imaginer ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait faire, qui va nous équiper au final pour ce qu'on fera la prochaine fois, qui sera peut-être pas exactement ce qui était prévu, mais qui dans l'esprit en tout cas changera l'intention et l'intonation de ce qu'on fait.
Absolument, c'est absolument ça, exactement.
Ouais. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose que tu aurais envie de dire aux profs
Non, juste que ce sont mes héros, mais sinon, mais ça, ils le savent, parce que je le dis à chaque fois. Donc, moi, je considère que vraiment, s'il y a une population dont il faut prendre soin, c'est les enseignants, et je trouve que ce n'est pas le cas. Donc, je suis extrêmement agacée, globalement. Je trouve que pendant longtemps, le terme même de souffrance des enseignants ou de souffrance enseignante, ça a été un tabou, mais je trouve que c'est pas encore complètement modifié, c'est pas encore exactement pensé, quoi. Et je pense que c'est vraiment très systémique, c'est-à-dire que cette souffrance-là, elle a des impacts délétères partout, par définition, quoi. Pour les enseignants, et c'est déjà problématique, mais pour tout l'écosystème autour, quoi, évidemment.
Oui, exactement. Ben vraiment merci pour cet échange. Il y a un podcast que les gens peuvent écouter, le podcast de l'équipe de A180 degrés qui s'appelle Si j'avais eu Palo Alto. En deux mots, comment tu le présenterais, ce podcast, pour donner envie d'aller l'écouter?
Oui, donc c'est un podcast que j'adore, mais je ne suis pas objective. Oui, c'est en fait les gens de mon équipe qui, à un moment donné, partent d'une situation qu'ils ont vécue alors qu'ils ne connaissaient pas l'école de Palo Alto et qu'ils ont donc du coup géré d'une façon qui n'a pas fonctionné. Et puis, ils reviennent dessus, ils se disent « qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent ?» Et notamment, je crois que c'est l'épisode 3, il y a un enseignant qui explique au fond une des situations dans lesquelles il s'est trouvé et comment il aurait fait différemment. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est très incarné. Et puis, ça montre, en effet, ça montre comment on peut utiliser les outils de l'école de Palo Alto.
Super, merci. Bien, je mettrai tous les liens pour pouvoir le retrouver dans la légende de l'épisode.
J'ai écrit un livre pour lequel j'ai vraiment une affection certaine. J'en ai écrit une quinzaine et celui-ci vraiment, je suis très attachée. Ça s'appelle « Comment ne pas être un prof idéal ?» Et ça reprend en effet pas mal de situations, en effet, comme celles dont on a parlé aujourd'hui.
Moi, j'ai conseillé à une de mes coachées de faire son 180 degrés, et qu'elle a adoré. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'aller lire en fait d'autres situations hors situation de prof, parce que ça permet aussi de faire des transferts et aussi de regarder les choses différemment et de se dire ok, en fait, finalement, ce que je vis dans mon quotidien de prof, on peut le retrouver ailleurs, et ce que les autres vivent ailleurs, ça peut aussi venir enrichir ma réflexion, ma créativité, justement, pour pouvoir faire mon 180 degrés à l'école, en salle des profs, dans ma classe ou avec les parents.
Eh bien, un énorme merci Emmanuel pour m'avoir offert de ton temps et pour cet échange. Vous retrouverez en légende de l'épisode tous les liens du podcast Si j'avais eu Palo Alto et des deux livres d'Emmanuel cités, Comment ne pas être un prof idéal et faire son 180 degrés. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à échanger avec Emmanuel Piquet. Et si vous aimez le podcast, pensez à lui laisser une petite note ou un commentaire là où vous l'écoutez, car c'est ce qui lui permet de grandir. Si vous avez besoin d'un coaching pour avancer sur le plan professionnel, vous savez où me trouver sur metrucdecoach.fr/contact ou / newsletter ou / kiffe ta vie de prof ou / kiffe tes vacances, selon ce que vous cherchez. Et moi, je vous retrouve très vite pour l'épisode 200 du podcast. Et oui, 200 épisodes déjà depuis 2019. Et d'ici là, eh bien, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye bye.